Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Hors les murs sur Mon Paris FM. Pour cet épisode, je suis accompagné de deux invités d'honneur. Après avoir cherché plusieurs adjectifs pour les qualifier, celui qui leur convient le mieux, à mon sens en tout cas, est celui d'artiste. Deux artistes avec un grand A, à l'aise dans chacun des domaines qu'ils explorent. Ils traversent le temps avec grâce. Paul Pechenard et Paul Pechenard sont mes invités.
Coucou. Bonjour.
Salut.
comment ça va?
Ça me fait marrer, t'as invité deux personnes qui ont le même nom. C'est la première fois que ça t'arrive. Hein.
Bah, c'est vrai que je reçois rarement deux personnes qui ont le même nom. Mais là, c'est vrai qu'on a Paul Pechenard senior et Paul Pechenard junior. On commence par présenter qui?
L'ancien.
L'ancien.
Bonjour alors.
Bonjour, comment ça va Paul?
Bah, ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous.
Bah, plaisir partagé. Et juste à côté, du coup, votre fils Paul Pechenard junior.
Bonjour voilà. Tout le monde.
Vous pouvez me tutoyer.
Je peux te tutoyer. Bah, je te tutoie alors.
Voilà, et moi aussi.
Oui, moi ça va très bien, mais je suis un petit peu fatigué parce que j'étais en tournée tout le week-end. Voilà.
T'as tourné où?
On était d'abord une MJC en banlieue parisienne, et ensuite on a fait deux dates en Belgique. Une date dans le Luxembourg belge, pas loin du Luxembourg, à côté d'Arlon. Et l'émission sera peut-être diffusée plus tard, donc la temporalité, on s'en fiche un petit peu. On était à Namur. Namur, qui est peut-être la capitale du Hainaut, non? C'est pas ça? La région du Hainaut?
Aucune idée.
Et d'ailleurs, comme la dernière fois qu'on est passé sur cette radio, petite référence au rap, Damso cite le Hainaut de temps en temps, la région
dans
du Hainaut.
Dans ses sons,
ouais.
Damso.
Et on était à Namur qui est dans le Hainaut.
Voilà. Damso, le belge.
Exactement, le belge.
Le plus français des Belges.
Voilà, qui est tout le temps là, qui cartonne.
Moi, la première question qui me vient à l'esprit, tu le disais, je reçois pas souvent de personnes qui ont le même nom. Pourquoi Paul Pechenard senior, il a décidé d'appeler Paul Pechenard junior Paul?
Déjà, j'ai pas décidé tout seul. Voilà, donc avec sa mère, on a réfléchi, puis on a trouvé que c'était la meilleure proposition. Voilà, et c'est pas plus compliqué.
Très évasif sur le fait. Il laisse un flou.
Parce que en plus, ce qui est vrai, c'est que c'est sur quatre générations les Paul Pechenard.
C'est encore plus lui qui est au courant que moi là.
Oui, effectivement, il y a mon père et mon grand-père qui avaient le même prénom, et donc. Paul est le quatrième Paul des quatre Paul.
Et toi, comment tu vis le fait de t'appeler Paul?
Moi, je pense que c'est plutôt un avantage, j'ai l'impression. Parce qu'il y a toujours ce petit truc, les gens le retiennent, tout ça. Ils ont un intérêt qui est, avant même de savoir ce qu'on fait, c'est marrant ce truc. Tout le monde a le même prénom, on vient de la même famille et tout. Voilà, c'est rigolo.
Ouais, je le prends comme ça aussi. Ouais.
Voilà, plutôt un avantage.
Et comment elle se passe ton enfance, Paul, Paul Junior?
Eh bien, enfance, je sais pas si on dit classe moyenne, banlieue parisienne, ville, plusieurs ambiances. On était dans le 91, dans l'Essonne. Yeah. Voilà, plein de grands artistes qui viennent de l'Essonne, actuellement qui cartonnent. On ne va pas encore les citer. Hein, parce que
le 91, déjà, ça sort pas mal d'artistes. Que ce soit en termes même de cinéma ou de musique. Je crois qu'il y a DC's qui sort qui est du 91.
DC's, évidemment, qui était déjà là en 2000. Quoi. J'ai même vu en concert.
Niska, qui vient du 91.
Exactement, on ne va pas tous les citer. je dois citer PNL quand même. Mais c'est vrai que DC's, je me souviens, j'ai été voir Eminem. On était ensemble d'ailleurs, en 2001. Ouais. On a été voir Eminem en 2001 ensemble, quand il a commencé à faire des tournées mondiales et tout. Et il y avait DC's en première partie, mec. Imagine. Okay. Donc le 91 était déjà là. Je ne m'en rendais pas compte parce que je ne savais même pas qu'il venait de là. Mais la première partie française, c'était un gars du 9-1. Donc l'Essonne, ouais, il se passe un truc dans l'Essonne que, après, je n'ai pas vécu dans le 93 ni dans les autres départements, donc je ne sais pas, mais je trouve que, ouais, il y a un. Je sais pas. Bon, après, je suis peut-être un peu chauvin.
Mais la banlieue parisienne, de toute façon, est riche hein, de manière générale, que ce soit 9-1, 9-3, 7-7. Ou,
c'est ouais, il y a des trucs partout, il y a plein de monde. Et donc, mon enfance, classique, hein. Classique, mais classique plus musique quand même tout le temps, art et tout. Ma mère était danseuse, donc elle a fait beaucoup, beaucoup de danse, elle a fait des tournées et tout. Donc je pense que la scène et les tournées et tout ont été vite, j'ai vite compris qu'il y avait ça, quoi, qui existait. Qu'on n'était pas obligé de faire forcément un boulot 9h-17h Et après, on rentrait chez nous. On est
oui. Et sa sœur, par exemple, a fait sa première scène, elle avait 3 mois.
3 mois.
Donc Paul, c'était un peu plus tard, parce que c'était quoi, 3 ans?
Peut-être, ouais.
Peut-être, 2-3 ans. Ouais.
Ça veut dire que vous les avez fait baigner, dès l'enfance, vous vouliez les faire baigner dans ce
monde-là? On ne peut pas dire qu'on s'est décidé à faire ça comme ça, mais nous, sa mère faisait des spectacles de danse, moi je faisais les concerts, donc pour nous, c'était partie des choses qu'on faisait de manière quotidienne, donc eux ont participé. On ne s'est jamais dit, ça serait bien qu'ils deviennent des artistes. On ne s'est jamais posé cette question. Après, ils ont fait comme ils ont voulu.
Et quelle était votre relation à vous deux? Est-ce que c'est une relation fusionnelle? Est-ce que c'est une relation classique, père-fils? Ou comment ça se passait? Parce qu'en plus, vous avez le même prénom, encore une fois. Vous finirez par faire le même métier, de la scène. Ouais. Vous êtes ensemble en groupe. Vous chantez ensemble, vous faites des tournées ensemble. Quelle était votre relation plus jeune? Parce qu'on sait qu'il y a ce truc de c'est insupportable de toujours être avec son parent.
Mais non, mais justement, c'est intéressant, tu dis insupportable, mais je pense parce qu'il n'y a peut-être pas un lien comme nous on avait qui est la musique. Donc en fait.
Du coup, vous, c'était plus simple.
Ouais, si tu n'as pas le lien passion, art et tout, je pense qu'il y a peut-être ce truc, tu dis, mais je pourrais jamais le faire, c'est pas possible.
Ouais, tout le temps être avec.
Mais en fait, si tu as le truc de la musique, jouer de la batterie et tout ça, je pense que ça. Tu ne te poses même pas la question, puisqu'il y a ce truc-là à faire, donc en fait, qui est un plaisir. Donc.
Oui, je crois qu'il n'y a jamais eu de contraintes, j'ai l'impression. Ouais. Par exemple, moi, quand on jouait en fait, au début avec Paul, en fait, sa sœur aussi chantait dans le groupe.
Mmh.
Et donc, souvent, les gens venaient voir en disant « Ah oui, t'as appris à tes enfants et tout ». Et en fait, non, c'est absolument pas. Le truc, c'est qu'eux, ils avaient envie de jouer, de faire un groupe, moi aussi. Donc, c'était super pratique, on a joué ensemble. Mais ça, y a pas plus que ça, en fait. Parce que souvent, on peut se poser des questions, mais en fait, je crois que ça fonctionne justement parce qu'il n'y a pas de questions. On a juste envie de le faire et puis on le fait.
Et vous, Paul Senior, enfin toi, comment tu rentres toi dans la musique? Comment ça se passe? Et comment elle se passe ton enfance à toi également de ton côté? Est-ce qu'il y avait ce lien aussi avec ton papa ou comment ça s'est passé?
En fait, dans ma famille, je suis le seul musicien. Si je vois dans la famille de Paul, sa mère et ses oncles et tout ça, et sa grand-mère, c'est des gens très musiciens. Et dans ma famille, pas du tout. Donc, alors, pour avoir plus d'informations sur le sujet, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Les chiens ne font pas des chats, que j'ai donné la semaine dernière à Paris et Paul était là. Et donc, j'explique à un moment, mais c'est pas un spectacle où je raconte ma vie, hein, c'est pas ça, c'est un peu plus rigolo que ça quand même. Et j'explique que là où moi on peut dire que je suis tombé dans la musique, c'est quand j'étais petit. En fait, j'allais avec mon père à Londres et lui il organisait des voyages avec ses élèves de terminale. Donc, mais moi j'avais 10 ans et je passais la nuit dans des boîtes de rock à écouter des groupes. Et donc, alors sans ça, j'aurais peut-être fait de la musique, mais là j'avais vraiment vu les choses en vrai, quoi. C'était très impressionnant, ouais.
Et du coup, dès ton enfance, est-ce que tu es sûr que tu vas finir dans la musique ou c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure, surtout quand on sait que le monde de la musique et le monde artistique, de manière générale, c'est un monde assez précaire, compliqué, difficile. Enfin, en tout cas, quand on n'arrive pas à s'y imposer, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu étais sûr de finir là-dedans?
Non, pas du tout. C'est des questions que je ne me suis jamais posées. J'aimais bien jouer de la guitare et faire du rock, de la guitare électrique. Ça, c'était sûr. Et après, j'ai rencontré des gens. J'ai eu la chance de faire un groupe qui a fonctionné tout de suite, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, quoi. J'ai franchi plein d'étapes en quelques jours, pratiquement.
Et quel était ton caractère quand tu étais enfant? Parce qu'en lisant ta biographie, je lis, hein, pour lui, l'idée même de jouer du rock est un acte de rébellion et d'outrance. Est-ce que tu étais un ado ou un jeune homme rebelle?
Moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé et tranquille, mais c'est peut-être ça aussi, comme ça que je fonctionne. C'est que d'un côté, je suis comme ça, mais d'un autre côté, la musique qu'on faisait, c'était monstrueux, quoi. C'était terrible. Donc, il y avait les deux. Mais en réalité, quand on joue de la musique énervée, on est calme.
Voilà. Tu confirmes, Paul, quand on joue de la musique énervée, on est calme?
C'est intéressant ce qu'il dit, oui, parce qu'en fait, si tu es très énervé, et que tu fais de la musique comme on fait avec nos groupes, La Faiblesse ou quoi, parce que c'est pas le groupe qu'on fait avec mon père, c'est de la musique assez posée avec le temps, je pense.
Oui, mais non, c'est de la musique calme,
c'est de la musique assez posée,
c'est
en fait.
Pas avec le temps, c'est seulement que quand j'ai joué dans des groupes plus énervés, c'est pas moi qui écrivais les chansons.
Ah oui, c'est ça.
Donc maintenant, quand j'écris mes chansons, en fait, j'ai toujours écrit des chansons un peu dans cette tonalité tranquille.
Ouais, voilà. C'était plutôt les gars qui
c'est, pas, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que voilà, ça s'est trouvé comme ça. C'est pas le temps qui a fait que j'ai changé. Puisque il y a des morceaux qu'on joue encore maintenant que j'ai écrits quand j'étais beaucoup plus jeune que Paul actuellement.
En 80. Voilà,
je mélange un peu les choses, mais c'est exprès. Et donc c'était déjà des chansons très tranquilles.
Ouais, donc pardonne, voilà. effectivement.
C'est pas,
donc,
c'est pas
le projet qui s'appelle Paul Pechenard, puisque c'est son nom pour lequel un peu on est là. Enfin, pas vraiment, puisque c'est l'interview de nous deux, mais c'est de la musique posée. Donc là, on se pose pas forcément la question de si on est énervé ou pas. Mais les autres groupes dans lesquels je joue, par exemple avec lesquels j'ai joué hier ce week-end, qui d'apparence effectivement ça crie, la voix cassée, ça va vite, les guitares sont saturées, ça fait beaucoup de bruit. Et en fait, comme on le fait tout le temps, on peut pas être énervé tout le temps. En fait, c'est pas possible. Il y a un moment où peut-être que tu es énervé quand tu as 14 ans quand tu le fais, mais après si tu joues tous les week-ends, effectivement, on est obligé d'être posé, sinon on n'arrive pas à le faire la performance en fait. Donc c'est pas vraiment de l'énervement.
Ouais, je pense que justement, c'est la musique, il y a toujours une part d'énergie dans la musique, ben, rock évidemment, mais dans toutes les musiques en fait, quand on entend des trucs de jazz très doux, très susurrés, en fait, ça fonctionne parce qu'il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est pas l'énervement, c'est autre chose, c'est une manière de contrôler justement la puissance du truc.
Et toi, Paul, est-ce que... quand tu étais petit, du coup, est-ce que tu t'es dit que tu finirais dans ça, tu deviendrais artiste, musicien en voyant ton père? Ou pareil, tu avais d'autres hobbies, passions que la musique? On le disait, tu as grandi dans un milieu, en tout cas, très artistique.
En fait, la vérité, c'est que lui, comme il disait, il n'est pas d'une famille de musiciens. Donc, il est plus d'une famille d'études, un peu, tu vois, si je peux me permettre. Plus une famille d'études,
ah,
quand
ouais,
même.
Tu peux dire tout
quand ça. Même, tu vois, ce que je veux dire. Contrairement à ma génération, où les gens autour de moi... ma compagne ou mon meilleur pote, tu vois, dont on parlait, qui joue de la basse.
Esteban.
Voilà, qui joue de la basse avec le groupe de mon père. Nous, on a les études, on a merdé. Mais on a été guidés par des gens comme mon père qui valorisaient. Oui, les études, attention, qu'est-ce que tu vas faire, machin, peut-être faire ça, tu t'inscris.
C'était quand même important.
Donc en fait, on a un peu suivi ça à mytho, tu vois. non, mais pas mytho, tu vois, on l'a fait vraiment, mais. Avec, comme il y avait la musique en parallèle, je pense qu'on trouvait plus d'intérêt à aller faire de la musique quand même que les études. Donc ça a pris le pas assez vite, je dirais, si on peut le dire comme ça, d'une façon fun. Ça a pris le pas assez vite et on était plus vite à organiser, enfin on s'occupait plus, même tôt à 17-18 ans, s'occuper de partir jouer ou faire des enregistrements, faire des machins. On était déjà impliqué beaucoup, presque professionnellement assez vite, dans la musique. Alors que c'est vrai que les études, on y consacrait peut-être un peu moins d'énergie.
et du coup, tu étais sûr de finir dans ce milieu-là?
Mais en fait, on n'est jamais sûr. Mais par contre, la vraie réponse, c'est que qu'on finisse ou pas dans ce milieu, ce qui était sûr, c'est qu'on n'allait pas arrêter de le faire, en tout cas. Par contre, parce que tu sais, on a...
C'était peu importe ce qu'il y a à côté, il y aura toujours la
musique. Quand on est tombé vraiment, vraiment au kiff sur la musique, c'est pas un truc que t'enlèves comme ça, tu sais, d'un coup. Et il y a des gens, même dans la musique, même dans mes groupes, je pense, il y a des mecs, ils ont l'air... C'est pas passionné le mot, il faudrait développer, mais il y en a, je connais des potes à moi qui jouent, qui pourraient arrêter, tu sais, qui pourraient dire, bon, vas-y, là, je joue pas pendant un an, je vais, tu vois, je sais pas quoi, au bout du monde et tout. Moi, j'aime bien vraiment avoir toujours mes groupes, jouer, tu sais, faire des répètes, partir en concert et tout ça, je l'enlèverai pas, effectivement, de ma vie.
Ah, moi, c'est pareil.
C'est impossible.
Je peux faire plein de choses différentes. Et d'ailleurs, il y a des périodes, je me suis dit, logiquement, je devrais arrêter de jouer, mais en fait, non, j'ai toujours joué tous les jours, tout le temps, depuis que je suis petit.
Lui, il joue vraiment beaucoup, lui. Hein. Il joue tous les jours dans son salon, tout le temps. Lui,
il est vraiment
malade.
Passionné,
Il est vraiment malade, lui. Hein.
Ah non, c'est vrai, je peux jouer de 5h du matin à minuit.
Il n'y a jamais de lassitude, c'est une question un peu...
Eh bien non, alors pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en réfléchissant rétrospectivement, je me suis beaucoup investi dans la musique. Ça a toujours été pour moi mon occupation principale, même quand j'ai fait autre chose, mais... J'aurais pu en faire beaucoup plus encore.
Tu trouves que tu n'as pas fait assez?
Non, je suis content d'avoir
de
fait
ce que
j'ai
fait.
Mais je me dis, parce que c'est vrai que si tu t'investis complètement dans un truc, tu te dis que c'est peut-être pas très, très malin, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment ça que j'aime bien faire. Ça, j'en suis
sûr.
Pour
faire vraiment. Un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intro de l'émission, quand on dit s'investir beaucoup dans faire de la guitare, par exemple, Je préfère m'investir beaucoup dans faire de la guitare ou de la batterie que être. Je dis ça vraiment toute proportion gardée, mais que tu vois, aller bosser chez Franprix tous les jours de 9h à 18h.
Ouais, c'est vraiment toi, enfin, ton. Ouais, c'est
ton le boulot, ça prend toute ta vie en fait. Donc si ton boulot, tu l'aimes pas trop.
Ça devient vite fâcheux.
Je veux dire, on n'a qu'une vie, donc.
C'est vrai.
C'est mieux d'avoir joué de la batterie.
Paul Seigneur, en 73, tu montes les Dogs avec Dominique Laboubé, Michel Gross et François Camuso. Comment ça se passe, cette connexion déjà entre vous quatre? Et comment elle te vient l'idée de monter, enfin comment elle vous vient, vu que vous êtes plusieurs, de monter ça avec, avec ces personnes-là?
Ben, je dirais, comme tout à l'heure, très simplement, en fait, moi je connaissais le bassiste Zox, qui était à Paris, donc je jouais dans un groupe avec lui. Et lui, il avait ses deux amis là, Michel Gross et puis Dominique Laboubé, avec qui il allait en vacances en Normandie. Et donc, il m'a dit, bah, si tu veux, viens jouer avec nous, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a, à ce moment-là, formé le groupe.
Et à ce moment-là, est-ce que vous commenciez à gagner de l'argent ou pas du tout? Ça reste une passion et un truc qu'on fait à côté?
Bah, je dirais que les finances, c'est toujours le résultat des choses qu'on fait. Donc on s'est absolument jamais posé la question de savoir si on allait gagner de l'argent en jouant. Mais en fait, avec ce groupe-là, on a commencé à répéter début juillet. Et on a commencé à faire des concerts mi-juillet. Voilà, c'est direct. Tout de suite. C'était parti direct. Et en fait, comme on était hyper motivés, enfin, c'est même pas imaginable à quel point on était sur le coup. Et aussi, une des particularités de ce groupe, c'est que on était quatre musiciens, mais en réalité, on était toujours une vingtaine à nous déplacer. Donc, c'était un truc assez, assez particulier. Et donc, il y a une espèce de mouvement qui a fait beaucoup de buzz en réalité.
Et toi, Paul, ton premier groupe, ça arrive à quel moment?
Bah en fait, on a juste commencé à répéter avec mon père, qui était déjà guitariste rock, et moi, je faisais de la batterie rock. On a commencé à répéter quand j'avais, c'était 97 peut-être, quand j'avais 12 ans. Mais je tiens à préciser, corrige-moi si je me trompe, papa, comme on dit. en fait, ce qu'il faisait, il faut se rendre compte pour peut-être, je ne sais pas l'âge que tu as à bout. Mais
moi, je suis en 2000, j'ai 23 ans.
Merde, carrément, voilà, donc c'est, j'en ai un peu plus. Donc du coup, j'ai l'impression que t'as ton style de musique et le groupe que vous avez lancé à l'époque, on ne se rend plus compte maintenant, mais vous, c'était ce que vous faisiez, c'était précurseur quasiment de faire ça en France. C'était un ouais. Truc nouveau, il défrichait le terrain. Mm-hmm. Un peu comme quand on dit, tu sais, le hip-hop, quand c'est arrivé en France, c'est les mecs qui disaient, tous les anciens, là, bon, je ne vais pas citer tous les noms des rappeurs des années fin 80, début 90, mais ils disaient, ils ont arrivé, ça n'existait pas le truc. Personne ne connaissait, mm-hmm. ils développaient un truc qui était... Et du coup, vous avez un peu ce truc-là de futur.
Oui,
un peu.
Alors moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que ce qui est très difficile à faire comprendre, c'est le contexte dans lequel se trouve la musique. C'est-à-dire que si tu réécoutes un truc maintenant, en fait, de ce qu'on faisait à l'époque, en tout cas, il y a 50 ans, c'était pas du tout pareil. Parce que nous, ce qu'on faisait, personne faisait ça. Et c'était vraiment extrême comme façon de voir les choses. Hein. C'était quelque chose, mais c'est pour comprendre, il faut vraiment remonter dans le passé. Là, il faudrait une machine à remonter le temps pour comprendre tout ce qui n'existait pas à l'époque et qui fait que ce qu'on faisait était justement nouveau. Mais maintenant, si tu écoutes avec le recul, ben, ce qu'on faisait à ce moment-là, maintenant, tu as l'impression d'avoir entendu ça 1000 fois, quoi. Mais c'est normal, hein, c'est le temps est passé.
Ils étaient là début 70 avec les blousons noirs, les cheveux noirs devant les yeux. Ils faisaient la gueule. Tu sais, ils étaient là en bande, t'imagines?
Mais est-ce que c'est ce que j'allais dire. Quand vous faites, en tout cas, pourquoi choisir le rock et pas un autre style de musique? Enfin, est-ce que le rock, finalement, c'est parce qu'il. Parce que vous dites que vous êtes quelqu'un de très calme, mais.
Non, mais je dirais pas que.
On choisit pas.
Et puis les autres non plus, ils n'ont pas choisi. C'était ça qu'on aimait bien. C'est ça qui nous parlait, c'est pour ça qu'on faisait de la musique. Donc à partir de là, on avait des références, et puis on écoutait en fait tous les quatre les mêmes choses, que c'est les mêmes choses qui nous branchaient. Mais on ne s'est pas dit, je ferais plutôt comme ci ou comme ça. Non, non, l'idée c'était d'avoir un gros ampli, mettre à fond, et puis c'est parti.
Il y a des artistes qui t'ont inspiré?
Plein. Alors tout à l'heure, on discutait comme ça justement... de toutes les étiquettes qu'on peut coller sur la musique. Et c'est vrai que dans la réalité, on écoute plein de choses très différentes. Hein, donc, Moi, j'ai été influencé par des trucs de rock, bien entendu, puisque c'est avec ça que j'ai appris à jouer. Mais par exemple, il y a toute une période où j'écoutais beaucoup, enfin avec les autres aussi, toutes les musiques de la Tamla Motown. Donc c'est assez curieux parce que ce qu'on jouait comme musique était complètement différent de ce qu'on écoutait. En réalité.
Balance des noms d'artistes.
Bah, bon, mais si il l'a dit.
Marvin Gaye, il l'a dit.
Non, mais il y en a plein, quoi.
Et toi, Paul, est-ce qu'il y a des musiciens qui t'ont inspiré? Ou est-ce que ton inspiration principale, finalement, c'est papa?
Incroyable.
Ah non, c'est pas moi.
Bah, ça sera un peu réducteur quand même, même si c'est très important. Non, moi, je suis de la vague qui a été influencée par Nirvana. Tu vois, ce groupe américain début 90. Fin 80. Donc moi, j'étais vraiment marqué par ce truc-là qui a marqué en fait beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans plein d'autres styles. Tu sais, ça a un peu changé le game quand ils sont arrivés. Donc ça, c'était vraiment mon époque, quoi. Moi, j'étais enfant qui commence à écouter de la musique, à mettre des cassettes, à capter qu'il aime bien cette chanson-là et tout. Et quand eux, ils sont arrivés vraiment fort. Donc là, ça a changé un peu mon... Ça a façonné un peu mon oreille et mon envie de faire sonner le truc comme ça, quoi.
Le rock, c'est aussi un style musical à travers lequel on dénonce des choses. Est-ce qu'au moment où, l'un ou l'autre, est-ce qu'au moment où vous commenciez à faire du rock, est-ce qu'il y a aussi cette volonté aussi de dénoncer? Ou vous, il y a vraiment cette partie-là, elle arrive après, on comprend après, comme quand on est jeune, on fait du rap parce qu'on kiffe le rap, on aime bien et tout. Après, on comprend que c'est aussi un moyen pour dénoncer des choses. Est-ce que vous, ça se fait dans ce schéma-là? Ou dès le début, vous comprenez que c'est un exutoire et un moyen, en tout cas, de dénoncer des choses.
Ben, moi, je dirais que pour mon cas, il n'y a jamais eu d'autre message que de s'exprimer à la façon qu'on avait envie de faire. Après, c'est les gens qui vont nous renvoyer le fait que ouais, on est contre ci, on est contre cela. Bon, d'accord. Mais le but, c'est pas de faire la leçon aux autres. Le but, c'est d'être plutôt soi-même. Et justement, je pense que c'était une des grandes forces de notre groupe où je jouais au début, donc ça s'appelait les Docs, c'était le côté créatif du truc. Donc maintenant, les gens regardent ça et puis ils achètent les mêmes vestes, les mêmes bottes et tout. Mais en réalité, nous, on aurait pu faire autrement. Parce qu'on faisait aussi autrement. On avait plusieurs façons de faire. Et c'était le côté très, très libre, justement, où qu'on essayait, c'était de faire des trucs qui nous amusaient. Et c'était très choquant, en fait. Enfin, pour les autres, hein. Nous, on n'était pas choqués.
Et toi, Paul?
Nous, on était choquants.
moi, je dirais effectivement que la façon dont j'aborde la musique, c'est pas... Les textes que j'écris, par exemple, avec mes groupes, tu vois, le groupe La Faiblesse qui en est venu, ça dénonce pas. Je pense pas que ça... Tu vois, tout cet aspect dénoncer des choses, là, on n'est pas là-dedans. Moi, je suis pas là-dedans, dans ce que je crée. Mais, en fait, ce qui est intéressant et important à comprendre quand on fait de la musique en groupe dans ce style-là, c'est que en fait, je pense rien que l'acte de le faire et la façon dont on le fait, ça a déjà une couleur politisée, ça nous met déjà dans un camp en fait. Et je pense que ça, on le capte au quotidien quand on est en tournée avec ces groupes-là. On n'est pas obligé de parler politique, tu vois, pour être politisé. C'est ça que je ressens un petit peu.
Okay.
Tu sais, quand tu joues des petits trucs, l'entrée à 3 euros, machin, et tout ça. En fait, c'était déjà un truc, tu sais, on prend pas beaucoup pour jouer, on est habillé d'une certaine façon, tout ça. En fait, on n'a pas besoin de parler de politique dans le texte. En fait, tu le captes d'où on vient et ce qu'on défend, tu vois.
Voilà, là, je suis tout à fait d'accord que l'expression artistique, c'est politique au deuxième degré. Mais on se dit pas, on va dire des choses aux gens pour dénoncer ceci, cela. C'est une action politique. Et là, c'est pas du tout ça.
En tout cas, ce que nous avons choisi de faire, mais moi, je joue dans des formations plus punk rock, tu vois, étiqueté punk, donc très branché politique un peu, des gens avec qui je joue, qui eux le voient comme ça. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est la diversité, chacun a envie d'écrire ce qu'il veut, mais ce qui sort de mes textes, en tout cas, c'est pas ça, et des tiens non plus.
Non, mais j'ai fait vraiment...
Mais le sous-texte est là, je trouve.
Oui, enfin, mais je pense que c'est le propre de l'expression artistique, c'est que tu t'exprimes en tant qu'individu. Et après, les gens, ils voient forcément un placement politique, mais ce n'est pas un message politique. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas du tout l'intention de délivrer un message. Je n'ai pas de conseils à donner aux gens. Je suis surtout content de pouvoir jouer et qu'il y ait une communication. C'est ça que j'aime bien. Mais après, je leur dis pas, faut faire ci, faut faire ça.
Faut faire ça.
Ou ça, c'est pas bien, ou ça, c'est bien.
En 2013, tu publies Une grosse boule de feu aux éditions Camion Blanc, un livre sur tes expériences d'enfance et des jeunesses qui t'ont conduit aux excès à la démesure véhiculée par le rock. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, comment elle vient, l'idée d'écrire un livre? Parce que c'est pas tout le monde qui écrit un livre. Et de quoi on parle exactement quand on dit excès et démesure véhiculée par le rock?
Ben, c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. C'était en faisant des choses qui étaient excessives. Et je trouve que bah, c'est un des propres de l'expression artistique, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et c'est bien de profiter du fait qu'il n'y a pas de limite. Et ensuite, pour revenir au bouquin, bon, bah, moi je suis peut-être d'un caractère assez calme, mais après je suis passé à travers des choses compliquées. Et donc c'est ça qui fait que j'ai cette distance par rapport aux choses. Et ça s'est traduit dans la musique, dans mon cas. Voilà, et le bouquin, bah, la réalité, c'est que j'ai pas eu l'idée de faire un bouquin. J'écris des trucs parce que j'écrivais des chansons depuis longtemps. Et puis là, je me suis dit, ah, bah, finalement, j'écris des choses qui ne pourraient pas vraiment faire des chansons, mais qui racontent des choses. Et puis, à force de le faire, et puis d'en parler autour de moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, tu pourrais faire un bouquin avec ça. Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait le livre, sachant que j'ai tout écrit avec un téléphone. Et j'ai fait plein de petits articles comme ça au fur et à mesure des jours. Et le jour où je me suis dit, bah, je vais faire un livre avec ça, c'est que je me suis simplement dit, bah, il y a une logique quelque part là-dedans. Donc j'ai tout imprimé, j'ai mis partout chez moi par terre. Et puis j'ai viré des trucs et gardé des trucs et mis un ordre. Et ça fait bouquin.
Ça, c'est le pouvoir des smartphones quand même. Moi qui les déteste.
C'est vrai qu'il ouais, est écrit avec un bouquin. C'est ce qu'il dit avec son téléphone.
Mais pas avec un téléphone tactile. Hein. Avec un téléphone à touche.
Bah, c'est encore plus fort.
Parce qu'avec un téléphone tactile, j'aurais pas pu. Ça va trop lentement.
Et toi, Paul, est-ce qu'il y a cette ambition un jour peut-être d'écrire un livre ou toi, t'es moins dans ça t'es...
En fait, moi, je suis pas littéraire comme mon père, c'est ça le problème.
Ouais, mais...
C'est ça le problème, carrément. C'est ça l'obstacle.
Bon, c'est pas forcément un problème, mais...
Oui, effectivement, je pense que tout le monde... En fait, quand tu te fais aider, tu peux écrire un livre. En fait, tu vois, tous les grands...
Il n'y a plus beaucoup de gens qui écrivent même leurs livres.
Exactement. En fait, tu peux écrire un livre sans l'écrire, en fait, sans que ce soit toi qui écrive. Mais je suis pas du tout là-dedans. Pour l'instant, je fais des chansons de rock avec des textes simples et courts. Donc, je suis pas encore dans le délire écriture de livres, non. Si c'est...
Vous faites une passion aussi qui vous amène à beaucoup voyager. Je dis vous faites une passion et pas un métier. Vous faites vraiment une passion qui vous amène à beaucoup voyager. Je lisais ce que tu m'envoyais d'ailleurs, qui était très très détaillé, où tu m'expliquais que toi, le seul continent que t'as pas fait, c'est l'Afrique, au contraire de ton père. C'est lequel le pays qui vous a...
On a envahi le monde à tous les
jours. Toi, tu dis ça parce qu'il a joué récemment au Maroc. C'était Maroc ?
Ouais, c'est Maroc.
Et justement, c'est quel pays qui vous a le plus... je ne sais pas comment formuler ça, mais qui vous a le plus touché de par son public.
Intéressant.
Pour moi je n'ai pas joué autant que Paul à l'étranger, mais j'avais adoré jouer en Italie.
L'Italie, c'est...
Le pays est magnifique, les gens étaient adorables, mais en disant des conditions super. Donc ça aide aussi.
Voilà, tout dépend de la dimension de la tournée que tu fais. En fait, tu ne peux pas, je pense, juger... De toute façon, les généralités, il faut faire gaffe. Mmh. Tu ne peux pas dire ce pays-là, c'est trop bien. Point. En fait, c'est un
non, il y a toujours, oui. C'est... Bah, après, c'est toujours bien selon notre vision.
Voilà, ce qu'on a expérimenté, en fait, ça dépend de la tournée.
Et ça ne veut pas dire que c'était moins bien ailleurs.
Exactement. Et c'est presque comme demander quel est le préféré de tes enfants. Tu vois, oui, quand tu as plusieurs enfants. Nous, on est l'humanité. On peut pas... c'est dur de dire j'ai préféré la Thaïlande à la Russie. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, carrément, parce qu'en fait, la Russie, t'as vu le truc que c'est. T'sais. Donc, en fait, je pense que c'est selon la tournée que t'as vécue là-bas, parce qu'il y a des petites tournées, disons, on peut dire des gros mots.
On peut.
Il y a des petites tournées de merde, tu sais. Il y a des grosses tournées agréables. Il y a des tournées où on est encadré par deux, trois personnes qui nous aident à conduire, qui font des trucs. Donc, on est 10 fois moins fatigué que d'autres, où on fait tout seul à trois, avec les trois du groupe, tu vois, ou les quatre du groupe. Donc, c'est difficile de comparer. Mais moi, j'adore. Alors, c'est marrant parce que j'y ai pas joué, mais puisqu'on est sur le sujet du monde, moi, j'adore le Portugal, par exemple, comme pays. Okay. Si on peut juste donner un petit SO. J'adore le Portugal. Et effectivement, l'Amérique du Sud, j'ai été qu'une fois. On a été dans le même pays, d'ailleurs, parce que lui, il a tourné au Brésil en 95 ou un truc comme ça.
Ouais, le Brésil. Ouais.
Ah, mais c'est ça qui me fascine, moi, c'est le Brésil. On en parlait, je crois, ouais, une fois à l'accueil, et tu disais, ouais, que t'as...
C'était génial, le Brésil.
Vous pouvez nous raconter un peu déjà comment ça se passe, et même pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas très calés musique, qui ne sont pas très dans le milieu, comme moi par exemple, comment ça s'organise une tournée, comment ça se passe, est-ce que c'est vous qui démarchez, est-ce qu'on vous contacte, c'est quoi les conditions d'une tournée, parce que toi tu le disais, là, hier tu es rentré ce matin de Belgique, comment ça se passe tout ça?
Ben, c'est selon la notoriété et les moyens, c'est tout. Si tu n'as rien du tout, si tu juste, tu vois, nous on se décide, toi et moi par exemple, on fait un truc de rap. On a des instrus, on a 15 instrus, on monte un set, on rappe tous les deux. On peut, si on veut, en quelque sorte, partir en tournée. Il suffit d'avoir quelques contacts, avoir un peu de temps et un peu d'argent, parce qu'au début, on n'est pas connu, donc de toute façon, on ne sera pas bien cher payé, tu vois. Donc, on peut le faire quand même dans le réseau Do It Yourself, totalement avec nos petits téléphones, tu vois. C'est possible maintenant avec Internet et tous les réseaux. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand tu as un tourneur, un label qui sort le disque, tu vois, un tour manager sur place qui loue le camion, qui conduit, tout ça. Et là, c'est selon les moyens. Donc, si tu as plein de moyens, c'est sûr que c'est plus relax. Mais nous, concernant ma tournée au Brésil, en tout cas, nous, c'était effectivement un gars qui est là-bas, qui adore le rock, qui fait du rock depuis 90, qui est un peu plus vieux que moi, et qui a déjà tourné dans tout le Brésil, et qui est bassiste dans un groupe. Et donc, lui, il suit la scène mondiale rock de près, DIY, hein, des petits groupes comme nous. Mmh. Et donc, il était en contact avec mon chanteur. Il a dit, je peux vous faire une tournée. Je connais un peu, voilà, je connais 10-15 lieux où vous pouvez venir jouer. Donc, il nous avait fait 8 dates, je crois. Et il conduisait et tout ça. Donc, on est arrivé, il s'est occupé de nous. Il nous a prêté, tu vois, une batterie, un machin. Donc, ça, c'était petit moyen, mais tout à fait correct, avec hébergement tous les soirs. Voilà, donc ça, c'était, je sais pas ce que je voulais dire. Si je veux juste rajouter que c'est vrai que l'Amérique du Sud, on, beaucoup de gens qui disent que c'est quelque chose de très chaleureux, un endroit très chaleureux avec des gens super gentils. Et j'ai ressenti ça quand même au Brésil, dans les dizaines d'endroits qu'on a fait. C'était vraiment trop chaleureux, quoi. Trop cool. Voilà, mais pour les tournées, je sais pas toi ce que tu peux en
dire. Après, oui, comme me dit Paul, chaque tournée est différente, ça dépend de comment c'est organisé, qui est là. C'est vrai que quand t'es en tournée, t'es pas en vacances. En réalité, tu peux être un peu n'importe où et tu sais pas trop. T'es pas trop où t'es d'ailleurs. Quelquefois, tu sais pas où t'es d'ailleurs.
Ah oui, t'oublies.
Ça arrive. Hein.
Si tu conduis pas et que t'as pas beaucoup dormi, franchement, t'arrives le soir.
Tu sais plus dans quelle ville t'es. Donc, j'avais été au Brésil, mais dans des conditions différentes. J'avais vraiment bien
apprécié. Toi, t'avais hôtel tous les soirs, c'est ça?
Ben oui, nous, on s'était organisé de telle façon.
Vous avez entendu, hein. Il avait hôtel tous les soirs. Hein. Moi, j'ai déjà dormi dans une salle de bain, sur le tapis de douche, hein, au Brésil.
Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui rend atypique et qui rend unique ce qu'on vit, en fait?
C'est trop bien.
Parce que c'est plus génial encore. Enfin, c'est toujours mieux de dormir dans un hôtel, sûrement, mais...
Non, parce que pour en parler, tu vois, toi et moi, on pourrait, si on avait juste des hôtels 99% du temps, ouais, ça serait pas intéressant. Et justement, une fois, j'ai fait une assez grosse tournée en France avec un groupe pour lequel je remplaçais, et on avait une semaine de date, et on avait hôtel tous les soirs, avec cachet, avec de l'argent conséquent, avec un gars qui conduisait le camion. Et il se passait moins de choses, parce que c'était tous les soirs la même chose.
Ouais, c'était toujours...
C'était les salles subventionnées classiques, avec les hôtels qui sont juste à côté de la salle et tout. Donc, il se passait pas grand-chose au niveau aventure. Tu vois, j'ai presque une fois, c'est pas presque une fois, la petite anecdote, pas très intéressante d'ailleurs, mais je vais la raconter puisque j'ai le micro. On a joué à Rouen, dans une assez grosse salle, et le soir, on allait à l'hôtel direct après le concert, et du coup, j'étais en manque d'aventure, les autres étaient dans leur chambre et tout machin, et il neigeait, je me souviens, on allait hyper lentement pour garer le camion, et je suis sorti dehors à 2h du mat, sous la neige, pour aller me chercher un vieux kebab de nuit.
Il a quand même dit, j'étais en manque d'aventure.
Mais ouais, tu sais, t'étais là, t'étais à l'hôtel, bon, t'as plus rien à faire, il est 2h, il est tôt en fait, 2h, le lendemain, c'est à midi, tu sais. Donc, enfin, on rendait l'hôtel à midi. Donc, je suis parti marcher sous la neige, et je me suis pris la pire pizza, la plus dégueulasse possible, à 15€, très très cher. Je l'ai payé très cher, margarita de merde. J'ai mangé la nuit et j'ai mangé avec les gars du kebab et j'ai passé 20 minutes à discuter avec eux. Et je suis revenu à l'hôtel sous la neige et ça m'a fait une petite aventure.
Et t'as kiffé
C'était trop bien. Trop bien. Bah, tu vois, je la raconte là. C'était trop marrant.
Est-ce qu'il y a des pays que vous rêvez de faire? Il y a des pays qui vous parlent plus que d'autres, pour le futur en tout cas?
Non, moi j'aime bien
partout.
Ouais,
on t'invite, tu viens.
Si, moi j'aimerais bien aller jouer au Japon. C'est une de mes idées depuis longtemps. Mais j'ai aucune ouverture pour l'instant. Donc si jamais quelqu'un a envie d'écouter mes chansons au Japon, est au Japon, et peut téléphoner pour...
Là, on voit qu'il a plus de 25 ans.
Et même, je demanderai à Paul s'il est d'accord pour venir. Comme ça, on viendra avec les deux Pauls.
Trop bien. Ouais, bah moi, j'aimerais, comme je te disais, c'était peut-être un sous-texte, je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'aimerais aller en Afrique. Et on en parle de plus en plus. On avait un contact en Algérie. Et on a des potes qui ont été joués. Et bah, ça serait bien que ça se fasse. Mais après, même je dis Algérie, mais plus au sud aussi. Enfin, j'aimerais trop voir ce que ça donne. Quoi. J'écoute beaucoup d'artistes qui sont originaires de là-bas. Et donc, j'aimerais bien voir comment ça
se passe.
Ouais.
Comment on ressent le truc.
Exactement.
Ce qui m'a marqué aussi dans ce que tu m'as envoyé, c'est le fait que tu aies fait énormément de groupes. Énormément, je ne sais pas si c'est moi qui exagère quand je dis énormément.
Pas mal de groupes.
Est-ce que c'est atypique pour un rocker de faire ça, ou est-ce que c'est dans la norme finalement de faire autant de groupes?
Ça, il y a une grosse différence entre les années 70 et maintenant. Et il pourra
avant,
on était
plus.
Avant, les gens jouaient dans un groupe et de temps en temps, ils faisaient un petit truc par-ci, par-là, mais c'était vraiment comme ça. Donc, je sais pas, si on changeait de groupe tous les 4-5 ans, c'était déjà énorme. Donc parce là, que... c'est pas du tout pareil hein, que je vois Paul, donc il peut dire, mais je sais pas dans combien de groupes tu as joué, mais.
Ouais, pas mal.
10, 20, 30.
Plus que 30, ouais.
Oh, c'est énorme.
Ah, oui, puisque en fait, actuellement, je suis dans 5 groupes. Là, qui
Guérilla Poubelle, Avalanche, voilà. Faiblesse, Navarro et Paul Pechnard.
Voilà, exactement 5 groupes. Et en fait, cette même année, 2024, je vais remplacer là, dans le mois prochain dans un groupe et en juin dans un autre groupe. Et on va proposer peut-être un truc début juillet. Donc en fait, peut-être que cette année, je vais apprendre 3 nouveaux sets de nouveaux groupes avec de nouvelles personnes. Tu vois, donc 3 fois 12 chansons, je dirais. Tu vois, juste pour faire un week-end ou un petit tournée ou un concert, un gros concert parisien là, qui se marine. Du coup, je vais jouer peut-être dans des nouveaux groupes, mais juste comme ça, éphémère, tu vois.
Et on s'adapte assez facilement. Parce que une fois, ça, c'est des questions un peu naïves, mais non. Pour ceux qui sont un peu extérieurs à tout ça et qui ne connaissent pas, on se dit que c'est quand même dingue de faire autant de groupes. Et forcément, il faut se réadapter à chaque groupe. Il faut qu'il y ait cette entente aussi là. J'écoutais quand tu disais dans La Faiblesse, quand Loïc t'avait reçu dans Ça dit quoi. C'est important aussi de bien s'entendre avec les gens avec lesquels, gens qui t'entourent. Donc,
c'est la base parce que ce n'est pas notre métier. En fait, encore une fois, si c'était notre métier, mais ça, c'est toute pour moi la grosse scission entre les musiciens passion et les musiciens, c'est leur métier. T'sais. C'est que dans un métier, il y a une sorte d'entente obligatoire un peu. Peu, quel que soit le collègue, c'est pas négatif, c'est normal. Tu vois, t'es dans un business, dans une entreprise, dans un machin. Tout le monde s'entend un peu par obligation, mais c'est pas négatif, c'est comme ça, t'es obligé, sinon tu vas pas au boulot le matin. Et donc, quand c'est ta passion, ce serait dommage qu'en plus tu t'entendes pas avec les gens, tu vois. Donc, quand c'est ta passion et que personne ne gagne vraiment d'argent et paye pas son loyer avec, bah en fait, oui, tu le fais que avec des gens avec qui tu te sens bien.
Il y a un dernier album là qui est sorti. Est-ce qu'on. Paul, tu peux nous en dire un peu plus sur cet album?
Oui, donc c'est mon 7e album sous mon nom, mais c'est le 6e qu'on fait avec Paul et Esteban. Et puis là, maintenant, il y a Théo qui fait de la batterie avec nous. Je dois dire que ça fait pas mal de temps, donc je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, qu'on enregistre les chansons que j'écris au fur et à mesure du temps. Et comme ça fait que tous les 2 ans, en moyenne, on peut sortir un album qui est complet. Et
c'est quoi la spécificité de ce dernier album?
Faut faire la promo là-bas.
Par rapport aux autres.
Faut le vendre.
Bah oui, là, c'est maintenant.
Bah, non, je dirais que à chaque fois, comme on joue ensemble depuis pas mal de temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée entre les gens qui font de la musique avec le temps. C'est-à-dire que le temps est une dimension importante. Si tu rencontres des bons musiciens, tu te mets au point et en une demi-heure tu peux monter quelques morceaux et jouer des trucs qui seront bien joués, mais c'est pas du tout pareil que de jouer des années avec les mêmes personnes, mais vraiment pas affinité, pour réussir à faire ressortir, je dirais, les personnalités, parce que la musique qu'on produit, c'est essentiellement le reflet des relations qu'on a. C'est pas une activité technique, la musique. Enfin, nous, on a assez l'habitude pour que ce qui ressorte, justement, c'est la manière qu'on a d'interagir. Je dois dire que quand on voit des gens sur scène, c'est souvent ça qui ressort le plus. C'est ce que dégagent les gens et quand ils sont ensemble, ce que dégage leur relation. Parce que quoi qu'on fasse, c'est quelque chose qui est extrêmement visible, extrêmement sensible. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui a beaucoup de valeur et c'est ça qui donne du relief aux, chansons.
Et ça a pris combien de temps pour finir cet album ?
Je dirais que pour chaque album, on est à peu près sur les mêmes temps de fabrication. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une semaine, on fait les rythmiques. Enfin, avant, mettons qu'on répète une semaine. Après, il y a une semaine de rythmique. Et puis après, on fait les voix, je fais les, toutes les guitares en plus, additionnelles. Et après, on fait le mix. Donc, on va dire qu'il y a en tout 3 semaines de studio, 1 semaine de répétition. Après, il y a la question de la pochette. C'est toujours...
toujours la guerre.
On en parlait en off sur cette pochette.
Pour réussir
cette
à
pochette.
Faire les pochettes à temps. Mais voilà. Mais on le fait parce que ça nous plaît, quoi. C'est pas du tout.
Et est-ce que à travers même la pochette, il y a une histoire à raconter? Est-ce qu'on cherche à raconter quelque chose à travers la pochette, ou est-ce que comment elle est choisie, comment c'est fait?
Ben, on raconte toujours quelque chose. En fait, le truc, c'est que ce qui est intéressant dans le fait d'avoir une pochette, c'est que ça donne un visuel, ça raccroche la musique à quelque chose déjà aux gens. Alors c'est pour ça que là, par exemple, sur cette pochette-là, on a nos 4 visages sur la pochette. Alors, dans celle-ci, c'est intéressant parce que c'est la première où il y a Théo le batteur. Donc c'est la première où on est 4. Donc c'est bien de pouvoir justement séparer en 4 pour l'avoir sur la pochette. Après, il y a un rendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui tient en fait qu'on a... C'est Paul qui est un ami, donc, qui est photographe, mais qui fait plutôt des groupes de métal. Et c'était bien justement de faire ressortir un peu le côté rock de ce qu'on fait. Parce que on est un peu à cheval entre des choses qui peuvent être assimilées à de la chanson française et puis des trucs qui sont plutôt du rock ou même du punk rock, je ne sais pas. Donc c'est bien qu'on conserve cette couleur parce que c'est quand même un groupe. Alors c'est vrai que c'est sous mon nom ou sous son nom, c'est le même nom. Mais...
C'est normal, c'est son nom et c'est lui qui écrit tout. Hein.
Mais... C'est lui qui écrit et vous...
Oui, c'est pour ça, mais la réalité, moi je le pense beaucoup plus comme un groupe que comme un projet solo. Oui. Moi, j'envisage absolument pas d'enregistrer des chansons avec d'autres personnes. C'est pas du tout dans l'esprit du truc.
Est-ce qu'il y a d'autres actualités de prévues pour la suite? Est-ce que déjà, c'est le 7e album, vous le disiez, c'est le 7e et 6e ensemble, est-ce qu'il y a encore un album de prévu qui arrive, ou est-ce
évidemment.
Que...
Évidemment. En août, on enregistre.
Un album...
On commence à traquer pour un album qui sortira un an plus tard.
En fait, on les sorties d'albums, mettons que ça se fait tous les 2 ans à peu près, mais on enregistre tout le temps. Ce qui fait que le 8e album, si on voulait le sortir tout de suite, on pourrait. Parce qu'on a déjà assez de chansons enregistrées finies. Mais comme il y a des nouvelles, on va les enregistrer cet été et puis on va faire ça tranquillement. On n'a aucune contrainte parce qu'on est... dans un système, l'organisation est très légère.
Bah, on n'a pas donc, de contrat avec aucune boîte. Donc,
on fait ce qu'on veut.
Il n'y a pas de pression, il faut sortir à telle date.
Non.
Mais la spécificité de ce dernier album, que tu as un peu abordé, mais qui s'appelle Mon coin de ciel, excusez-moi, c'est que c'est la première fois où on est vraiment tous les 4, tout le long du processus de répète, d'enregistrement, on est 4. Alors qu'avant, on était 3, en fait.
Ouais, c'est ce qu'il disait, là, Théo n'était pas là.
Exactement.
Et c'est ce qui permet, en fait, de le mettre aussi sur l'affiche. Et de...
Voilà, donc déjà, il est sur la pochette. Et ensuite, surtout, quand tu écoutes le disque, chaque chanson a été faite à 4. Elle a été faite à 4. On balance tous nos idées et tout. Même si mon père, il est auteur-compositeur, tout ce qui est le rendu, ça a été fait à 4, dans la même pièce, tout le temps. En fait,
une vraie famille, quoi. Une...
Bah, c'est, le groupe, c'est, voilà, maintenant, c'est nous 4. Donc, ça, ce disque-là, il a la couleur des 4 membres du groupe. Voilà.
Et c'est quoi
c'est le premier qui a cette couleur-là.
Voilà, c'est le premier.
Voilà, c'est Théo qui est c'est ça sa particularité.
Voilà. Théo qui est un Rouennais, donc un mec de Rouen, qui est très très actif dans sa ville et dans sa région sur l'organisation de concerts. Il fait venir des groupes anglais, il fait venir des groupes canadiens. Il organise plein de concerts. Avant, c'était dans sa baraque et dans des lieux sur Rouen. Maintenant, c'est plus sur Rouen même. Mais il est, voilà, c'est un activiste. Et il fait un festival tous les juin, juillet, à côté de Rouen aussi.
À vous écouter depuis le début, j'ai l'impression que vous n'avez pas de limite, que y a pas de, ça s'arrête, en fait, ça s'arrêtera jamais, que ça finit,
ah oui,
ça s'arrêtera
jamais.
Forcément un jour, parce que le monde est fait pour que ça finisse un jour. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de limite, et c'est ce qui est limite beau. Vous avez commencé dans ça et vous comptez finir dans ça, et vous le faites sans vous poser de questions. C'est ce que moi je trouve en tout cas intéressant dans votre parcours. J'ai l'impression que vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Vous faites parce que vous aimez faire. Et voilà.
Mais il le disait tout à l'heure, en fait, dans l'art, il n'y a pas de limite. Tu peux vraiment aller jusqu'au bout de chaque truc. Et même quand tu es au bout, bah, ça se trouve, tu peux faire encore plus au bout. Mais sinon, Booba ne serait pas encore en train de sortir des titres.
Toi, t'es très fan de Booba.
J'aime bien.
Non, puis je trouve que on est très peu entouré. Bon, il y a un label, bon, juste une trace, etc. Mais c'est des gens qui nous entourent, mais qui sont pas du tout contraignants. Et donc, on a la chance de conserver cette liberté. Alors, le défaut, c'est que on aimerait bien quelquefois avoir un peu plus de moyens. Mais l'avantage, c'est qu'on est complètement libre.
Et ça, justement,
c'est vachement précieux, en fait.
Est-ce que financièrement, on s'y retrouve? C'est une question que... Et quel conseil vous donneriez, chacun d'entre vous, à un jeune qui voudrait débuter dans la musique, qui voudrait se lancer dans ça?
Alors, faut pas faire ça pour l'argent.
Donc là, je peux me permettre de revenir à mon spectacle, parce qu'il y a une rubrique qui concerne donc ce sujet délicat des finances des musiciens.
Les chiens ne font pas des chats.
Voilà, donc ça s'appelle Les chiens ne font pas des chats. Et donc, quand je parle, donc c'est comme un échange entre mon fils virtuel et moi. Alors, le truc, c'est que mon fils virtuel, il y avait mon fils réel dans la salle la dernière fois que j'ai fait. Donc, c'était un peu particulier. Mais donc, le conseil sur les finances, je m'appuie sur une citation de Serge Gainsbourg qui a dit mon premier cachet, c'était plutôt un comprimé. Et je pense que ça résume pas mal la situation. Effectivement, il ne faut pas jouer pour gagner de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est incompatible. Mais ce n'est pas un objectif...
Si tu parlais des conseils aux jeunes, entre guillemets, jeunes groupes, dans les musiques électroniques, c'est pas pareil parce qu'on peut tout faire avec un ordinateur tout seul dans sa chambre. Mais les musiques comme ça, avec des batteries, des machins, des pianos, des orgues, des basses et tout, pour l'enregistrer vraiment, il faut forcément payer un studio. Et rien que, comme il disait, rien que payer un studio pendant 15 jours, par exemple, c'est un studio, même s'il est pas cher, et c'est 200 la journée, même s'il est pas cher. Donc 200 fois 15, tu vois.
C'est énorme.
Donc rien que ça, avant de retrouver cet argent juste en faisant des concerts, en fait, il faut une somme d'argent, forcément. Donc avant de rembourser tout, parce que là, je parle juste du studio, mais après, il faut, comme tu dis, le graphiste qui fait la pochette, après, presser le disque et tout, tout coûte très cher. Donc, gagner de l'argent, c'est après des années d'expérimentation.
Et aujourd'hui, gagnez-vous, c'est, si on peut parler...
Non, pour être totalement transparent, nous, on réussit avec ton groupe, je ne me rends pas compte de tes finances parce que je ne fais pas les comptes de son groupe Paul Pechenard, là, avec ses albums dont on a parlé aujourd'hui. Mais avec mes groupes, on réussit à se renouveler sans arrêt, sans remettre de nos comptes en banque, en gros, quoi. Tu vois, avec l'argent, quand on rentre de week-end de concert, hein, je parle, on vient de faire 2-3 dates, on rentre avec quelques, tu vois, petites centaines d'euros. Après, on fait une tournée de 10 dates, on rentre avec un peu plus que, tu vois, que 200 euros, 300 euros. Donc, avec ces enveloppes-là, on presse des t-shirts, on presse des CD, on réussit un peu à se renouveler. Mais c'est l'âge, quoi. C'est limite.
Moi, j'ajouterais quand même une chose, c'est que on est dans un monde, et moi, je suis aussi un peu avec les gens de la chanson française, hein, parce que souvent, je joue tout seul. Et tout le monde a les mêmes préoccupations. Et moi, je me permets de dire quand même que j'ai vu une évolution dans la musique où, il y a un certain temps, c'était pas possible d'écouter de la musique sans la payer, à part à la radio. Et à partir d'un certain moment, on a considéré que la musique était gratuite et téléchargeable sur Internet. Et ça fait énormément de dégâts. Alors, je ne dis pas que ça a fait que des dégâts, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, puisqu'on peut aussi être visible dans le monde entier en restant dans sa chambre. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Mais par contre, la contrepartie, c'est que la musique, pour beaucoup de gens, est devenue quelque chose de gratuit. Mais il y a, par exemple, tous les gros opérateurs d'Internet. Eux, par contre, ils se font payer leurs services sur le dos des musiciens. Et c'est là que ça coince un peu. Parce qu'en fait, l'argent, on le génère, mais ce n'est pas pour nous.
Tout à l'heure, tu parlais d'une citation, on va finir sur ça. Tu parlais d'une citation de Serge Gainsbourg. Tu citais Gainsbourg. J'ai repris de moi une citation de Kurt Cobain.
Ah.
Alors, et je voudrais votre avis là-dessus. Elle est assez longue. Quand le rock sera mort, le monde entier explosera. Il a déjà tellement perdu son essence. Il a tellement été plagié qu'il survit à peine aujourd'hui. Ça me dégoûte. Les jeunes n'ont plus le même intérêt pour le rock que les générations précédentes. C'est devenu une revendication à la mode et une identité qu'ils utilisent pour baiser et avoir une vie sociale. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que la musique les intéresse. Ils choisiront des sons et des tonalités dans une machine de réalité virtuelle. Ils les écouteront, ressentiront les mêmes choses et ils iront faire la fête. Cette machine sera munie d'écouteurs. On pourra discuter en écoutant de la musique virtuelle. On pourra baiser, boire. Cette machine permettra de planer. La technologie aura tellement évolué. Il y aura aussi des junkies virtuels qu'on retrouvera sur leur canapé, morts d'une overdose. On pense quoi de cette situation qui...
Je savais pas qu'il avait Kurt Cobain, tu vois. Merci de m'apprendre ça. Qu'il avait parlé de réalité virtuelle. Je savais même pas que c'était possible en 92, tu vois. Mais c'est vrai que la les réalités virtuelles, les IA, c'est marrant. Ce week-end, la chambre dans le camion, on en parlait à fond pendant des heures. C'est vraiment incroyable, les IA. Donc là, je sais pas ce qui va se passer dans quelques années, mais c'est
ça vous fait peur?
Non, mais c'est complètement dingue. C'est incroyable. Les robots sont très 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 forts.
Non, mais je pense que quand on voit ça, puis quand on voit justement tout le côté virtuel dans lequel on est complètement plongé, et puis tous les systèmes électroniques qui nous contraignent pas mal, je pense que le côté révolutionnaire, c'est de parler aux gens, de voir des gens, de voir des vrais gens, de parler à des vrais gens comme on le fait en ce moment. Ça a l'air tout bête, mais en réalité, les systèmes sont quand même faits pour que les individus soient de plus en plus isolés. Alors, dans un monde virtuel où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses, mais c'est virtuel, c'est fabriqué. Et chaque chose qui arrive est le résultat du fonctionnement d'un algorithme, en fait. C'est-à-dire quelqu'un a pensé ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire aussi. Alors que dans la vraie réalité, quand on est avec des vrais gens, justement, beaucoup de choses peuvent arriver. Et nous, on voit ça dans les concerts, quand il y a tous les gens qui filment, qui ne regardent plus ce qui se passe, mais qui filment avec leur téléphone, là, il y a un contresens. C'est très, très gênant.
Bon, je suis tout à fait d'accord. Incroyable.
Très sage.
Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord à 1000%. Je trouve que les réseaux sociaux...
ce qui a été créé pour nous rapprocher nous éloigne plus qu'il nous rapproche.
Ça n'a pas été créé pour nous rapprocher. Ça a été créé pour gagner de l'argent quand on est un des membres des GAFAM. C'est comme ça qui résonne. Mais en utilisant toutes les choses sur les comportements, sur la psychologie des gens, on se fait un peu avoir par les systèmes quand même.
Bon, on finira sur ça. Peut-on faire plus sage?
Non, très dangereux, les réseaux sociaux, très dangereux.
Que ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à chacun de vous deux pour la suite?
La musique, les concerts.
Beaucoup de concerts. On vous souhaite bien évidemment le Japon. On espère que...
jouer au Japon. Non, mais mes deux rêves, c'est jouer au Japon et à la Philharmonie.
On te le souhaite. On espère que ça arrivera.
Pas facile.
Et moi j'aimerais revenir dans cette émission.
Avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous deux, parce que c'est vrai que, comme moi je te le disais en préambule de cette émission, moi j'écoute de la musique. Je suis pas un passionné de tout ce qui entoure la musique, et je trouve ça super intéressant tout ce que vous vivez autour de la musique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de t'inviter ici. On en parlait un jour en haut, tu parlais de tes tournées. Moi, je savais pas que t'avais fait le Brésil, que t'avais fait énormément de pays comme ça. Et je trouve que c'est super atypique, en fait, ce que vous faites. Et vraiment, comme vous nous l'avez démontré là durant une heure, c'est un métier passion. Enfin, c'est même pas un métier, c'est une passion. Mmh. Et vous faites ça par passion et vraiment continuez, parce que c'est important qu'il y ait des gens qui continuent à faire ça par passion. Et c'est super cool à vous. Et même le message qui est véhiculé par les deux pôles. Papa Paul a fait un formidable travail avec Paul Junior. Et Paul Junior, j'ai l'impression que tu vas continuer à perpétrer en tout cas ce qui t'a enseigné et ce qui t'a appris. Et c'est une très très belle chose. Donc merci à vous deux pour cette énergie positive que vous avez mis sur ce plateau et par le message qui est délivré.
Merci à vous pour votre passion aussi, parce que vous êtes là tout le temps à faire des trucs.
Merci beaucoup à vous.
Trop bien.
Merci, c'était un plaisir.
Merci à vous, merci Odile, merci Jason à la technique.
Jason qui était à la technique, Odile en com. Jason. Et bien évidemment, cette émission elle sera disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify et sur le site monparisfm.com. Cette émission elle sort dimanche, du coup là nous on enregistre lundi, mais passez un bon dimanche pour ceux qui nous écoutent en ce dimanche et faites attention à vous. Yeah.